Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, une question. Quel est le lien entre le naufrage d'un paquebot anglais, une extase en gros plan à un vendeur d'armes fascistes, du papier à musique et l'origine du Wi-Fi? Réponse, Eddie Lamar. Une femme au destin époustouflant qui nous mène de l'Autriche de l'entre-deux-guerres à la Floride des années 90, en passant par l'âge d'or d'Hollywood. Une actrice donc, qualifiée de plus belle femme du cinéma dans les années 40. Audacieuse, elle fut la première à tourner nue en 1933, à tenir tête à Louis B. Mayer, le magnat des studios de MGM, et à assumer son attirance pour la Bagatelle. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de son image de femme fatale, Eddie Lamar fut aussi une ingénieure de génie qui inventa pour la Navy un système de torpillage indétectable qui donnera plus tard naissance au GPS, au Bluetooth et au Wi-Fi, rien que ça. Alors, Eddie Lamar, nouvelle Léonard de Vinci, disons plutôt une intelligence hors norme bridée par un système misogyne. Une femme trop libérée, trop lucide, ingénieure d'un système trop novateur, elle aura toujours été trop tout et surtout trop en avance des décennies avant la vague MeToo. On a souvent tort d'avoir raison trop tôt. Notre invitée Hélène Frappa, romancière, critique de cinéma et productrice d'un documentaire consacré à Eddie Lamar, La Dame sans passeport, diffusé en 2017 sur France Culture. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Sophie Bobert, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Visio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Les vaisseaux de ligne de la marine de guerre allemande opèrent dans l'Atlantique. Un cargo est en vue. Un coup de canon lui ordonne de stopper. En cette même croisière, le cuirassé allemand devait couler plusieurs autres navires de commerce britanniques.
Juin 1941. Cela fait 2 ans que l'Europe est en guerre et les nouvelles ne sont pas bonnes. La France est occupée par les Allemands. Le Royaume-Uni subit le Blitz. Puis c'est au tour de l'URSS qu'inconscient Hitler envahit. Cette année-là, l'Europe entière est aux mains des nazis. Rien ne semble résister à leur conquête. Et outre-Atlantique, cette situation inquiète. D'autant que dans la nuit du 18 septembre 1940, le paquebot britannique City of Benares a sombré à poids après avoir été torpillé par un sous-marin allemand. À son bord, une centaine d'enfants qui fuyaient le Blitz pour rejoindre l'Amérique. La tragédie fait la une de la presse. C'est dans ce climat que l'armée américaine reçoit en juin 1941 une étrange proposition. Elle concerne le brevet numéro 39-74-12, intitulé Secret Communication System. Il est signé George Antheil et Eddie Kissler Markey, membres du National Inventor Council, une organisation gouvernementale qui rapproche les scientifiques de la défense nationale. Et que propose ce brevet? Un système de transmission inédit, qualifié de simple et fiable, tout en étant difficile à décrypter. En vérité, il consiste à sécuriser au maximum la direction des torpilles. Une technique dite d'étalement du spectre par saut de fréquence qui rend ces torpilles quasi indétectables par l'ennemi. Il s'agit donc d'une application déterminante en temps de guerre, une invention cruciale pour les gars de la Navy. Très vite, le New York Times révèle l'existence de ce brevet. Dans ses colonnes, le colonel L.B. qualifie même cette invention de « Red Hot », extraordinaire. Mais l'armée s'en méfie, car enfin, que valent ces deux scientifiques? Et d'ailleurs, qui sont-ils vraiment? Renseignements pris, ce ne sont pas des scientifiques, mais plutôt des artistes. Oui, le premier est un pianiste excentrique, le second, ou plutôt la seconde, une femme fatale qui joue les actrices. En outre, c'est une immigrée autrichienne, anciennement mariée à un armateur fasciste. L'alliance est donc bien trop risquée. Pourtant, ces deux inventeurs sont généreux et rendent leur brevet libre de droit pour l'armée des États-Unis. Mais rien n'y fait, l'armée laisse moisir, non sans avoir encouragé la jeune femme, connue sous le nom d'Eddie Lamar, à participer à des collectes de fonds pour l'armée en robe de soirée. C'est plus sage. Mais ça tombe bien, la star d'alors, Bette Davis, vient de créer la Hollywood Canteen, un club pour jeunes militaires à qui l'on offre le repas, la musique et parfois la chance de croiser des stars comme Louis Armstrong ou Rita Hayworth. Dans son autobiographie Ecstasy and Me, Eddie Lamar se souvient.
Bette Davis m'appela une nuit. Elle m'assura qu'il y avait quantité de choses à faire pour les soldats. juste en étant là, toi, Eddie Lamar, tu amélioreras le moral des troupes. Tu pourras signer des autographes et danser avec eux. Et puis, on a besoin d'aide en cuisine. Alors j'acceptais, parce que c'était mon pays d'adoption et qu'il m'avait tant apporté. Certains soirs, j'y signais tant d'autographes que j'avais le bras en compote. Mais c'est avec plaisir que je dansais avec certains d'entre eux. C'est en cuisine qu'un jour je rencontrai John Loder, mon troisième mari. Je remarquai le torchon qu'il tenait dans ses mains et qui jurait avec son costume en tweed. Il ne ressemblait pas à un plongeur. Moi non plus, je suppose.
Et elle suppose bien, car au début des années 40, Eddie Lamar n'est pas seulement une star hollywoodienne. Elle est aussi qualifiée de femme la plus belle du monde. Et tant pis pour les inconnus, plus belle qu'elle encore. En tout cas, en cette même année 41, alors qu'elle vient de rencontrer John Lover, qu'elle ne va pas tarder à épouser, le milliardaire Howard Hughes l'inonde de cadeaux qu'elle ne refuse pas. Souvenir de l'acteur George Sanders dans ses mémoires d'une fripouille.
Lorsque j'ai fait la connaissance d'Eddie Lamar, elle était si époustouflante que toutes les conversations s'interrompaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Où qu'elle allât, elle devenait le point de mire de tous les regards. Je doute qu'il y ait eu un seul individu pour s'inquiéter de savoir s'il y avait quelque chose derrière cette beauté. Tout le monde était trop occupé à la fixer bouche bée.
Être regardé bouche bée, Eddie en a l'habitude. Pour elle, tout a commencé à Vienne, où elle naît Hedwig Eva Maria Kissler en novembre 1914, soit trois mois après le début de la guerre. Son père, Émile, est banquier. Sa mère, Trudy, délaisse sa carrière de concertiste pour l'initier aux arts. Elle vit donc une enfance dorée, à la fois juive et laïque, durant laquelle on la surnomme Princesse Eddie. De quoi donner une certaine assurance dans la vie. Et elle n'en manque pas, effectivement, comme le raconte l'historienne Viviane Perret sur France Culture.
Comme c'est une famille bourgeoise dans une Vienne qui est bouillonnante artistiquement, Madame Kissler, elle va l'initier au théâtre, elle va l'initier au cinéma. À 13 ans, Eddie Lamar va voir Métropolis de Fritz Lang, elle va en ressortir bouleversée en disant « ça y est, j'ai trouvé ma voix, je vais être actrice ». Et comme elle avait un petit tempérament, dès 1929, la petite Heidi, elle imitait la signature de sa mère pour pouvoir sortir avant la fin des cours et aller se présenter à des auditions. C'était une gamine de 15 ans.
Une gamine, certes, mais dotée d'un sacré caractère. À 15 ans, elle laisse tomber son école pour jeunes filles et file à Berlin suivre des cours de théâtre. À tout juste 19 ans, elle y rencontre Gustav Machaty, un metteur en scène tchèque connu pour avoir réalisé le film Eroticon qui, comme on s'en doute, offre une vision très avant-gardiste de l'intimité. Mais Eddie est intrépide et c'est avec joie qu'elle accepte de tourner dans une scène et surtout un plan qui marquera un tournant majeur dans l'histoire du cinéma et dans sa propre vie. Souvenir de l'écrivain André Gillois au micro de France Inter en 1980.
Non mais ce plan dont je vous parle dure 40 ou 50 secondes.
Je l'ai vu.
Et le film dure 1h20, alors on était un peu... Non mais il faut dire qu'à l'époque, on n'était pas très gâtés sur le plan de l'érotisme. Alors ça ne valait pas l'anse bleue, mais c'était tout de même pas mal.
Et ça a fait scandale ou pas?
Oui, ça fait tout de même scandale, puisqu'on en a parlé, on parlait de ce plan, tout le monde en parlait, tout le monde racontait cette petite histoire scabreuse.
N'empêche que la carrière de la jeune actrice est lancée. Ainsi que sa mauvaise réputation. Or, entre-temps, elle a épousé Fritz Mandl, un fabricant d'armes qui s'amuse à concurrencer Krupp et Schneider. Un véritable personnage de roman noir, ce Fritz Mandl. Juif dans l'Allemagne des années 30, converti de la dernière heure au catholicisme, il est craint dans toutes les capitales d'Europe. Il devient même l'intime de Mussolini, avec qui il dîne régulièrement et qu'il fournit en bombe en 1936 pour attaquer l'Éthiopie. C'est ainsi que la jeune Eddie assiste à des dîners qu'elle qualifie d'assommants, où des hommes d'affaires véreux débattent de la prochaine guerre, parce que la guerre c'est bon aussi pour les affaires.
En tant que Madame Mandl, j'ai présidé de nombreuses réceptions en l'honneur de toutes sortes de notables, depuis les vedettes de l'écran jusqu'aux chefs d'État. Certains étaient des gens très bien, d'autres étaient des goujats. Un Adolf Hitler compassé m'a une fois fait le baise-main, tandis qu'à une autre occasion, un pompeux petit Mussolini à avancer ma chaise. Nous avions une vingtaine de domestiques. Notre argenterie était en or massif et je jouissais de tous les luxes, sauf de la liberté, car Mandel avait fait de moi sa prisonnière.
L'homme en effet est autoritaire et maladivement possessif. Alors, lorsqu'il comprend qu'en dépit de la condamnation des autorités, le film Ecstasy va être diffusé, il tente d'en racheter toutes les copies et décide de serrer la vis à Eddie. Il la surveille, il la traque et lui interdit de reprendre sa carrière d'actrice. C'en est trop, Eddie décide de fuir. Dans ses mémoires, elle décrit une scène digne d'une tragicomédie durant laquelle elle verse 3 somnifères dans le thé de sa femme de chambre avant de lui voler son uniforme, puis de s'enfuir de chez elle par la sortie de service des rivières de diamants cachées dans son vison. Au revoir Vienne, bonjour Paris. Arrivée dans la capitale française, Eddie reprend goût à la vie, même si elle découvre la solitude et le manque d'argent. Mais elle s'accroche. Elle demande le divorce et savoure ses nouveaux projets d'actrice. C'est alors que la chance lui sourit. Le célèbre impresario Bob Ritchie lui propose de le rejoindre à Londres, car le producteur Louis B. Mayer, patron de la MGM, vient de découvrir le film Extase. Et bien sûr, il exige de rencontrer la jeune actrice.
Louis Mayer ressemblait à l'image que l'on peut se faire d'un mania d'Hollywood. Il faisait de grands gestes, tenant à la main un cigare qu'il ne prenait pas la peine d'allumer. Il me détaillait du regard, sous tous les angles.
J'ai vu Extase. On ne vous laisserait jamais faire une chose pareille à Hollywood. Vous comprenez ? Le cul d'une femme est à la discrétion de son mari, pas des spectateurs du cinéma. Bien sûr, si vous voulez faire l'amour avec l'acteur principal dans votre loge, c'est votre affaire. Mais face à la caméra, vous devez faire preuve de distinction. Alors je vous offre un contrat de 6 mois à $125 la semaine, et si vous me suivez, je ferai de vous une star.
Passez vite, ce contrat est une arnaque.
Qui, à part Eddie Lamar, oserait tenir tête à ce producteur, sorte d'Harvey Weinstein avant l'heure? 80 ans avant la vague MeToo, la jeune femme risque gros, mais elle n'a pas quitté Fritz Mandel pour être brimée à nouveau. Et son coup de force paye. Meyer se souvient d'elle, oui, de ses yeux bleus à tomber et de son air bravache. Sans doute se souvient-il aussi des 70 000 entrées du film Ecstasy sur les écrans de Vienne en 2 semaines seulement. Alors, il propose un nouveau deal, un contrat de 7 ans à la MGM sur la base de $500 par semaine. Dans ces conditions, bien sûr, Eddie accepte.
So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on a lady known as you.
Fabrice Drouel.
Hollywood 1938. À 24 ans, la jeune actrice a tiré un trait sur sa première vie. Sur les conseils de Mayer, elle prend un nouveau patronyme. Elle récupère tout simplement celui de Barbara Lamar, une ex-star du cinéma muet, morte à 30 ans, dépressive et alcoolique. Mauvaise augure pour Eddie. Que nenni, elle a tellement confiance. Et elle n'a pas tort, car Louis B. Mayer tient parole. De nombreux films l'attendent, comme Casbah, un remake de Pepe el Moko de Julien Duvivier. Ici, la jeune Eddie entraîne Charles Boyer dans une romance passionnée.
Strange wild animal.
Strange, but not so very wild.
How do you like my cage?
I don't know yet.
Do you like Algiers?
I don't like traveling. Makes me homesick.
Does it?
I can't see Paris when I open my eyes in the morning. I want to go right back to sleep. Do you know Paris?
Do I know Paris? Now it's Saint-Martin.
Champs-Élysées.
La Gare du Nord.
Hill Parade, Boulevard Capucine.
Arbès, La Chapelle.
Rue Montmartre.
Boulevard Rochechouart.
Rue Fontaine. La place Blanche.
What a small world.
Cigarette?
Thanks.
Puis viennent la fièvre du pétrole avec Clara Gable ou encore Tortilla Flat de Victor Fleming. Oh, tous ces films ne sont pas des chefs-d'œuvre, loin de là. Mais tous ancrent l'image d'Eddie devenue femme fatale. Elle rivalise alors avec Judy Garland et Lana Turner, notamment dans le film La danseuse des folies Ziegfeld, grand succès de l'année 41, qui les réunit toutes les trois à l'écran. Contrairement à Judy Garland, Eddie ne sait pas chanter. Mais elle a une façon tellement suave de se déplacer que soudain, Garland est oublié. Alors, on lui propose le film Tom Delayo, jugé torride par les médias, mais si distrayant pour les soldats. Sauf qu'Eddie en a assez de jouer les femmes fatales. Un peu honte aussi. Et puis surtout, les échos de la guerre l'épouvantent. Le drame du paquebot City Benares aussi. Et elle se souvient de ses conversations avec Fritz Mandl, de la question cruciale des armes, comme ses dîners lui paraissent loin, désormais. Mais elle a mémorisé les infos, elle se souvient de tout. Alors, en rentrant des studios, elle calcule, elle dessine. De toute façon, elle a toujours aimé les défis. Petite fille déjà, elle s'amusait à démonter ses boîtes à musique avant de les reconstruire. C'est alors qu'elle rencontre un certain Georges Anteille. Il est français et il compose des musiques de films. Mais surtout, Eddie comprend que cet homme est un génie. Proche de Man Ray et de Stravinsky, c'est lui qui a composé la musique du film Ballet Mécanique, le chef-d'œuvre dadaïste de Fernand Léger. Une partition qui révèle la fascination des artistes pour la technologie ainsi que leur désillusion envers le modernisme. Ici, pour traduire cette impression de folie que vous entendez, Anteille a utilisé 16 pianos mécaniques, 3 xylophones, 7 cloches, 3 hélices, 4 tambours et un tam-tam, un vrai tohu-bohu. Et un beau scandale. Alors évidemment, entre Georges et Eddie, l'entente est immédiate. Et c'est ainsi que naît l'idée d'utiliser du papier à musique et de remplacer les notes de piano par des fréquences radio afin de rendre les torpilles indétectables. À quoi pensent les artistes tout de même? Car enfin, il faut les imaginer, Georges et Eddie, passer des heures à décider des sauts de fréquence. Le schéma final est une merveille de raffinement, d'une précision extrême, absolument incompréhensible pour les néophytes. C'est ainsi que le brevet est déposé le 10 juin 1941, puis enregistré le 11 août 1942. Mais la Navy ne les prend pas au sérieux ou se méfie d'eux. Un terrible gâchis. Dépité, Eddie s'en retourne à ses films, à ses rôles insipides et à ses soirées. Des soirées où sexe et travail sont intimement liés. Car à Hollywood, derrière le glamour, se déploie une micro-société malade de sa censure, le fameux Code Hays, qui cornaque les cinéastes depuis des années. Alors, tout se défoule lors des soirées libertines organisées par Errol Flynn. Des soirées où l'on s'amuse à poursuivre des filles déguisées en lapins. Que pense la très bourgeoise Edith Lamar de ces soirées? Tout d'abord, elle a du mal à se faire à la mentalité américaine.
Beaucoup de mes problèmes étaient dus à mon exil et au fait d'avoir été arrachée à mon berceau viennois pour me retrouver dans le monde clinquant d'Hollywood. J'étais sur la défensive dans une société étrange où les gens passaient leur temps à boire du coca au goulot, où l'acteur le plus rentable était Mickey Rooney, un gamin de 19 ans, qui possédait 3 maisons, 3 voitures et 30 cochons. et où le livre le plus vendu était « Comment lire un livre » par Mortimer Adler. Il y avait de quoi être troublé par un si curieux pays.
Mais surtout, Eddie se sent incomprise. À des producteurs qui lui reprochent son goût pour les rôles de composition, elle répond « Enfin, comment sais-tu réellement qui je suis, hein ? As-tu espionné ma chambre à coucher ? As-tu parlé de mes 50 liaisons avec mon psychanalyste ?» 50 liaisons, oui. Et sans doute plus. Ses amants, c'est l'homme alors, Robert Capa, Errol Flynn, Jean-Pierre Aumont, Billy Wilder, Otto Preminger, Charlie Chaplin. La liste est vertigineuse. Sans parler d'Orson Welles, de Marlon Brando ou du père de Robbie Schneider, qu'elle a connu à Berlin, ou de John Fitzgerald Kennedy, qui la courtise lors d'un passage à Paris. Et puis il y a aussi les maîtresses. « I am over-sexed », a-t-elle coutume de dire. Côté mariage, c'est tout aussi foisonnant. À 6 reprises, elle passe devant Monsieur le maire, à 6 reprises, elle divorce. Ainsi, après avoir épousé Fritz Mandel, promu arien d'honneur par Goebbels, elle jette son dévolu sur Jean Markey, un scénariste amateur de Rome, qui offre son nom à un cocktail ravageur et avec qui elle adopte un enfant. Mais qu'elle quitte pour l'acteur John Nodder, avec qui elle fait 2 enfants en 4 ans. Puis c'est au tour du businessman Teddy Stauffer qui l'emmène vivre à Acapulco, d'où elle s'enfuit, évidemment. Pour se marier 1 an plus tard avec le milliardaire texan Howard Lee, qu'elle quitte 7 ans plus tard pour épouser son avocat en charge de ses présents divorces et qui, étonnamment, ne craint pas de tomber sous son charme ou sous son emprise.
Je pris un bain et m'observai dans un grand miroir recouvert de buée. Ce visage et ce corps, qui n'étaient pas très voluptueux, mais parfaitement proportionnés, m'avaient permis de gagner chaque année 10 fois plus d'argent que le président des États-Unis. Jamais aucun homme ne m'avait dit non sans aussitôt changer d'avis. J'étais déterminée à ce que les choses demeurent ainsi.
Sériole mariée, sériole divorcée. Un record battu seulement par Sasa Gabor et plus tard par Liz Taylor. Nous sommes alors en 1949. Eddie est au sommet de sa gloire. On la retrouve même en une de Paris Match à l'occasion de la sortie du très kitsch Samson et Dalila. Ici, au micro de la Tribune de Paris, sorte de masque et la plume avant l'heure, la jeune Françoise Giroux commente le film.
Je crois que Françoise Giroux a eu l'occasion de voir Samson et Dalila.
Samson et Dalila en français.
Oui, Samson et Dalila en hébreu, vous voulez dire.
Ah, moi, c'est un film que j'adore. C'est un film que j'adore, il est complètement loufoque, ridicule.
Et très ennuyeux.
Ah non, il n'est pas ennuyeux.
Il est très drôle.
Écoutez, il y a quelque chose d'abord d'irrésistible quand on entend appeler cette dame ravissante qui s'appelle Eddie Lamar, Delilah. C'est déjà assez drôle. Et en plus, tout ça, il jouait non seulement en anglais, mais avec un accent américain, mais le plus violent et le plus vulgaire. N'est-ce pas? On s'attend tout à ce qu'ils disent OK. Oui.
Et ils ne disent pas.
Bah, c'est tout juste.
Non, mais il y a un sens de la rançon de Samson en dollars.
J'en ai tout. Certes, le film fait recette, mais les critiques se moquent. Et dit en rage, comme elle s'en veut d'avoir refusé le chef-d'œuvre Casablanca, qui revient à Ingrid Bergman. Une grave erreur, c'est clair. Alors qu'elle avait déjà refusé le magnétique Laura d'Otto Preminger et le gothique Antise de George Cukor. En vérité, elle manque cruellement de discernement dans ses choix. C'est comme si elle avait la tête ailleurs. D'autant que les années passent. Cruel pour les femmes de son âge, avoir 40 ans à Hollywood est un chemin de croix. Alors elle plaque tout pour devenir productrice. Et enfin, elle se sent libre. Et elle décide de financer l'Amante di Paride, un nanar italien qui la ruine. En vérité, elle devient incontrôlable. Et elle contacte Max Jacobson, surnommé Dr. Feelgood, le même qui soigne le dos de John Fitzgerald Kennedy. À chaque rendez-vous, il lui infuse 40 mg d'amphétamine. Elle se sent mieux, c'est sûr. Mais à ce rythme, la folie rôde. Pourquoi le thérapeute ne la prend-il pas au sérieux? Pourquoi la Navy ne l'a-t-elle jamais recontactée? N'est-elle bonne qu'à être une star sur le retour ou une mère au foyer?
William Roy et Sylvain Dorange rendent hommage dans La plus belle femme du monde.
Are you a movie star? Were you born in Europe?
Well, should we all say it together? I think we all know. Girl in the world. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr.
On la célèbre encore, comme dans cette émission de télévision datée de 1957 où on l'applaudit. Mais pour combien de temps? D'ailleurs, sa dernière apparition dans le Who's Who America remonte à 1951. Qu'est-il arrivé à l'ancienne plus belle femme du cinéma? Il se trouve qu'étrangement, un vol à l'étalage l'a fait passer des pages cinéma aux faits divers. En janvier 66, elle est arrêtée dans le grand magasin May Company de Los Angeles pour avoir volé une paire de pantoufles dorées à $85. Puis elle récidive et se met à voler des rouges à lèvres, comme une lycéenne. C'est amusant, sauf qu'elle a désormais 50 ans. Les paparazzi la traquent et Hollywood la méprise. De toute façon, la mode des femmes fatales façon années 40 est bel et bien passée. Ce sont des femmes comme Brigitte Bardot qu'on préfère aduler ou comme Jane Fonda. Des beautés blondes et naturelles. En somme, des femmes qui ne lui ressemblent pas. Alors, dans l'espoir insensé de ne pas être oubliée, elle accepte de publier ses souvenirs. Le livre paraît en 66 sous le titre « Ecstasy Enemy », livre dont nous avons diffusé quelques extraits. Mais une fois de plus, l'Amérique n'est pas prête pour ce genre de confidences sexuelles qui se situe entre les mémoires de Casanova et la vie de Catherine M. Une fois de plus. C'est trop tôt et les critiques sont féroces envers elle, qui passe pour une femme amorale et dérangée. Appauvrie et isolée, Hedy Lamarr enchaîne les procès et les chirurgies esthétiques souvent ratées. Que d'amertume. D'autant qu'elle découvre que dans le plus grand secret, la Navy a exhumé son brevet afin de sécuriser les systèmes de communication de ses navires. Car en ces années 60, une nouvelle guerre se profile, cette fois du côté de l'Asie.
Le 2 août dernier, le contre-torpilleur américain Maddox croisait dans le golfe du Tonkin. Soudain, à 15h, il annonçait qu'il était attaqué par trois vedettes non identifiées, les appareils de la 6e flotte américaine bombardaient aussitôt les positions côtières du Nord-Vietnam. La guerre d'Indochine allait-elle recommencer?
Et l'armée américaine développe enfin la technique du frequency hopping. C'est gratifiant. Sauf que depuis 1959, le brevet est tombé dans le domaine public et qu'il ne rapporte pas un centime à Eddie. Ce n'est qu'en 76, avec l'apparition du livre de Robert Dixon, Les systèmes d'étalement du spectre, que la technique créée par Eddie et George Anteil cesse d'être un secret d'État. Quelques années plus tard, en effet, la Federal Communication Commission rédige un rapport sur les applications possibles de ces techniques dans la vie civile. Et certains comprennent qu'elles vont être révolutionnaires. Dans les années 90, un membre du National Science Foundation découvre le rôle d'Eddie dans cette révolution numérique. Et il décide de lui rendre justice en lui offrant le prix des pionniers de l'Electronic Frontier Foundation. Il était temps, répond-elle, et envoie son fils récupérer le trophée. De toute façon, elle ne veut plus voir personne, pas même ses enfants qui ne peuvent la joindre que par téléphone. Pressent-elle que son invention va bouleverser l'humanité, qu'elle est inhérente à l'essor du GPS, du Bluetooth et du Wi-Fi? Une véritable révolution à l'aube de ces années 2000, un tournant de civilisation qui s'annonce aussi important que la révolution industrielle 150 ans avant, le numérique qui a tant changé nos vies.
La folie du Wi-Fi nous vient des États-Unis. Là-bas, des centaines de lieux publics comme ce parc à New York sont équipés. Chaque jour, ils se transforment en bureaux en plein air pour cadres fatigués.
Et c'est ainsi que l'Amérique bascule dans le numérique. Alors, quand le magazine Forbes annonce qu'Eddie aurait pu toucher 30 milliards si elle n'avait pas offert son brevet à l'armée, elle déclare « On a inventé quelque chose que le monde entier utilise. C'est pas une lettre, pas un merci, pas un sou. J'imagine qu'ils se sont servis de nous et ils nous ont vite oubliés. » En réalité, cela fait des années qu'Eddie Lamarr ne vit que grâce à sa pension de la Screen Actors Guild, $300 par mois. Comme il paraît loin le temps de la MGM et des palaces, elle qui était si riche. Mais elle tient sa revanche. invisible pour cause de trop grande beauté, elle a enfin gagné sa part de légitimité. Alors, dans la solitude de son appartement de Floride, la voilà qui se remet à inventer. Elle imagine un feu rouge pour malvoyant, un collier lumineux pour chien, et met au point la formule d'un soda lyophilisé. Sans oser imaginer qu'en 2014, elle sera admise avec Georges Anteil à titre posthume au National Inventors Hall, le panthéon américain des scientifiques. En 1999, répondant à un journaliste de Vanity Fair qui l'a soumis au questionnaire de Proust, elle déclare « Est-ce si étonnant qu'elle préférerait mourir après avoir fait l'amour ?» et que son personnage de fiction favori est Bart Simpson, dont l'esprit espiègle et nihiliste l'a fait rire, sans doute. Elle s'éteint quelques mois plus tard, en janvier 2000, après avoir souhaité comme épitaphe « Merci pour cette vie haute en couleurs ». On ne saurait mieux dire.
Here she comes. You better watch your step. She's gone to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown, 'cause everybody knows if they tell the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she
écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui. Eddie Lamar, une scientifique à Hollywood. Notre invitée Hélène Frappa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière, critique de cinéma et vous avez produit en 2017 un documentaire consacré justement à Eddie Lamar sur France Culture. Alors vous allez les publier, je crois, début janvier prochain, un livre, c'est ça ?
Oui, qui s'appelle Trois femmes disparaissent et qui est consacré à une lignée de stars hollywoodiennes. La grand-mère, Tippi Hedren, sa fille Melanie Griffith et la petite-fille Dakota Johnson. Et ça n'est pas du tout éloigné finalement de ce que nous raconte, de ce que vous venez de nous raconter avec le destin, terme à mon avis assez piégé concernant les femmes, mais je pense qu'on va en reparler de Eddie Lamar.
Tippi Hedren qui jouait le rôle principal dans Les Oiseaux d'Hitchcock, c'est ça ?
Absolument, qui a été victime, on peut dire, de ce que faisait Hollywood, c'est-à-dire d'une forme de sacrifice humain. Qui pour moi est en arrière-plan de ce que vous racontez, vous venez de raconter dans l'histoire de Louise B. Mayer. Parce que finalement, ce nom d'Eddie Lamar, vous avez dit très justement qu'il est repris à Barbara Lamar.
Oui.
Barbara Lamar, en vrai, elle n'est pas vraiment morte d'alcoolisme et de dépression. Alors ok, oui. En vrai, elle est morte d'un régime alimentaire qui lui avait été prescrit par les studios, donc par Louise B. Mayer, dont elle était la maîtresse, maîtresse consentie ou non, ça on ne le sait pas, en tout cas elle était la captive de Mayer. Il l'avait à l'époque rebaptisée « Plus belle femme du monde », elle n'était pas juive comme Eddie Lamar, mais elle jouait un rôle un peu analogue car elle était censée être exotique. Et le studio lui ordonne de maigrir énormément. Elle maigrit tellement qu'elle en meurt. Quand Eddie Lamar arrive à Hollywood, par Louis B. Mayer, il la reprend, il lui redonne le même nom. Aussitôt, il lui fait perdre son accent et il la fait maigrir énormément. Donc, il y a quand même une histoire qui se répète.
Absolument, il y a voilà. Une vraie filiation, si j'ose dire.
Et je parle de sacrifice humain au sens où ça et passe d'abord par ce qu'un producteur a le droit de faire au corps d'une femme.
Et donc là, vous venez de répondre en partie à la question que je voulais vous poser, mais je vous la pose quand même pour l'autre partie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur le parcours d'Eddie Lamar ?
Alors moi, c'est une actrice que j'avais rencontrée il y a longtemps par un de mes films préférés, qui est Angoisse de Jacques Tourneur. Et puis en découvrant qu'elle avait été, ce que personne ne savait en réalité, hein, qu'elle avait été cette inventrice extraordinaire, j'ai été frappée aussitôt par quelque chose qui me passionnait depuis longtemps, notamment concernant l'histoire d'Hollywood, qui est une alliance socialement réprouvée entre la beauté et l'intelligence. On pourrait dire, même si on remonte encore plus loin, hein, si on remonte à l'origine qu'on trouve dans la mythologie grecque, qu'on trouve dans toutes les grandes figures mythologiques de femmes, qu'on trouve dans la soi-disant démocratie athénienne, etc., c'est la question du silence féminin. Ouais. Eddie Lamar disait c'est pas difficile d'être glamour, il suffit de se taire et d'avoir l'air bête. Il suffit d'être belle, de se taire et d'avoir l'air
bête. Sois belle et tais-toi.
Voilà. Mais ce qui compte là-dedans, c'est le silence. Hein. Le cosmos est le silence des femmes, disait Sophocle. Ça, c'est ce que les Américains appellent très justement le double standard, c'est-à-dire le fait qu'il y a deux critères, hein, qui s'appliquent aux hommes et qui s'applique aux femmes. C'est pas le même. Donc là, on a une femme d'une intelligence hors du commun, qui a été élevée par un père banquier qui aimait, qui a cultivé cette intelligence, puisqu'elle racontait que quand elle était petite, à Vienne, elle se promenait avec son père, ils discutaient d'économie, ils discutaient de mathématiques, etc. Donc ce père n'avait pas peur de l'intelligence de sa fille. Elle était dans un milieu, la haute bourgeoisie juive, très cultivée, qui cultivait aussi les arts, etc. Et puis effectivement, elle se fait connaître comment ? Par une scène, alors pour être plus précis, c'est quoi Ecstasy, hein, le film dans lequel elle joue, quand elle tourne ce film, elle a 16 ans, 16-17 ans, c'est la première scène, non pas de nudité, mais d'orgasme féminin. C'est pas exactement la même chose. Voilà. C'est-à-dire que des scènes d'orgasme, il y en avait eu dans le cinéma porno, enfin d'orgasme, de faux orgasmes, généralement dans le cinéma porno. Mais c'est la première fois que dans le cinéma non pornographique, on voit effectivement une femme nue se livrer à une scène d'orgasme. Concrètement, c'est l'histoire d'une très jeune fille mariée à un très vieil homme, très moche, pas très sexy du tout, qui va être contrainte à ce mariage, s'ennuyer à mourir, être complètement déprimée. C'est ça que ça raconte Ecstasy, hein, le film de Machati. Et rencontrer une sorte de palefrenier, enfin pas un palefrenier, mais un ouvrier sexy, avec qui elle va coucher et avec qui elle va avoir son premier orgasme. Donc, le scandale du film, c'est ça.
Ouais.
Hein, elle est surnommée The Ecstasy Girl. Le pape interdit le film. Hitler interdit le film. La Ligue de décence catholique américaine interdit le film.
Et tous les moralistes, quoi.
Voilà. Donc, elle est dès le départ, je parlais de cette alliance socialement réprouvée entre l'intelligence et la beauté, mais elle est dès le départ une femme socialement réprouvée. Et bien entendu, ce qui joue un rôle crucial, particulièrement historiquement à l'époque, mais je pense que c'est toujours le cas actuellement, c'est le fait qu'elle est juive. Elle arrive à Hollywood. Alors bien sûr, beaucoup des grands producteurs hollywoodiens à l'époque ont fui eux-mêmes le nazisme, sont juifs, ils sont terrifiée par l'antisémitisme, à juste titre. Et donc, avant que les États-Unis ne choisissent de prendre parti contre Hitler, c'est une période, quand elle arrive, où l'Amérique est encore non-interventionniste, et où il ne faut pas trop faire de vagues.
Ouais.
Elle a un accent, elle est viennoise, elle est très intelligente, Hollywood ne sait pas quoi faire de cette juive viennoise, et va lui donner, avec, je pense, une part d'antisémitisme aussi, que des rôles exotiques qui vont aller très loin, hein, puisque bon, elle joue les Espagnols, on lui fait jouer les Espagnols, on lui fait jouer les Soviétiques, elle va jouer les Hongroises, les Françaises, comme on l'a entendu.
Mais elle joue pas l'américaine modèle, quoi.
Jamais. Son accent est gênant, en fait. On a essayé de le lui faire perdre. Pourquoi il est gênant? Et puis, elle va aller jusqu'au blackface. Hein, donc, elle va, dans Ton Delayo, être littéralement passée au brodo noir. Elle va jouer une noire, sachant qu'historiquement, c'est un sujet quand même hyper hyper intéressant puisque
Et sensible puisque
les premiers acteurs qui ont joué blancs, qui ont joué des noirs, c'était des acteurs juifs. Hein, c'est Al Johnson dans le premier film Parlant, qui lui-même racontait sa propre histoire, hein, comment il avait joué au départ, était chanteur à la synagogue, il était minstrel, et puis il est allé à Broadway. Bon, ça, il a fui sa famille religieuse, il est pas allé à Broadway et il a fait carrière au début. Voilà. Donc tout ça est politiquement
rien d'innocent, hein.
Explosif.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Concernant la dimension sexuelle, alors elle dit dans la, je crois que c'est quasiment le début de son autobiographie, autant le dire maintenant, dans ma vie, et là la parenthèse est importante, comme dans la vie de la plupart des femmes, le sexe a joué un rôle prépondérant. C'était peut-être une façon de bannir avant l'heure le terme de nymphomane, qu'il faut bannir.
Ah ben ça c'est sûr. Et il faut surtout arrêter de faire de la femme l'altérité absolue et l'altérité absolue du désir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre l'attirance...
L'appétit sexuel des femmes et des hommes, voilà, tout simplement.
Il n'y en a aucune, à part que l'un est réprouvé socialement et qu'il entraîne des termes, en effet, tout à fait misogynes, comme celui de nymphomanie, et l'autre est socialement valorisé, puisqu'il est du côté du pouvoir, de la vie, etc. Donc, là-dessus, c'est une femme qui n'est pas dans la répression, pour employer un terme psychanalytique, et qui s'en moque, qui est trop intelligente pour se soumettre à des normes sociales, dont, étant elle-même une exilée, elle connaît la relativité, puisqu'elle n'a cessé de passer d'une culture à l'autre, et elle n'a pas envie, en effet, de se soumettre à cette hypocrisie-là et aux ligues de vertu catholiques américaines ou autres.
Ce que j'ai appelé, moi, la bagatelle, en référence à ce qu'avait dit le général de Gaulle, à Lucien Neuwirth, qui...
C'est un truc de mec, la bagatelle. On va arrêter avec ça. Je dis « on ». C'est-à-dire, il faut que la société arrête avec ces termes-là. Parce que la bagatelle, ça fait marrer tant que c'est dans les fumoirs des mecs. Mais dès que ça concerne les femmes, c'est socialement réprouvé.
Oui, mais sauf que là, c'est à l'adresse des femmes et des hommes.
Absolument. Donc, bon. Hedy Lamarr, elle est celle aussi qui nous montre que l'intelligence, pour les femmes, ça peut être sexy. Ça n'est pas précisément... C'est ça la question, en fait, qui se pose. C'est qu'il y a une érotisation chez elle, aussi bien de l'intelligence.
Bien, je note. Je note. Et nous prenons tous note. Et on en reparle dans 3 minutes après avoir écouté Christine and the Queen, qui chante dans cette circonstance. Rien dire.
Si je ne suis pas toujours dans tes bras, il me semble que tu marches à côté de moi. Mes gestes ont pris la couleur de tes mouvements. J'y pense tout le temps. Thank you.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Hélène Frappa, au sujet de cette micro-société hollywoodienne, nous allons entendre ensemble une archive. C'est Bertrand Tavernier, cinéaste français, bien sûr, qui parle ici au micro de Stéphanie Duncan sur France Inter.
C'est très intéressant de regarder à quel point l'histoire peut se révéler très actuelle. Le traitement de ces femmes et le traitement d'Eddie Lamar au début. Les metteurs en scène se plaignaient de son inexpressivité, donc on lui pinçait les fesses, on la giflait, on la rudoyait. On ne se permettait pas cela avec Barbara Stanwyck ou Claudette Colbert.
Et pourquoi elle alors ?
Parce qu'il y avait toujours un mélange d'attirance et de passivité tentatrice.
Parce que c'était l'actrice d'extase aussi.
Ça. Oui, parce que aussi c'était l'actrice d'extase.
Elle avait cette
d'extase,
image érotique.
Parce qu'on l'avait appelée, c'était Max Reinhardt, hein, le metteur en scène de théâtre, qui l'avait surnommée la plus belle femme du monde. Et qu'après ça, on n'osait plus rien dire. George Sanders, un acteur qui prend sa défense, écrit dans ses mémoires, ce qui est vraiment amusant, que quand elle parlait, elle avait une bouche qui était tellement belle, elle avait des traits qui étaient tellement beaux, que tout le monde était fasciné, la regardait, et qu'on ne l'écoutait pas. Donc elle était incomprise la plupart du temps.
Weinstein sort de ce corps. Tavernier a raison, cette histoire est très actuelle dans la façon dont sont traitées les actrices ou certaines actrices.
Et George Sanders, dont les mémoires sont absolument géniales, mémoires d'une fripouille, je recommande à tout le monde de les lire, ajoutait, elle faisait, George Sanders, ancien mari de Zsa Gabor, dont je précise qu'elle était une très grande intellectuelle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais pareil, il y a beaucoup de malentendus sur Zsa Gabor qui jouait les faux folles et les idiotes et qui était en fait issue d'une famille hongroise, de toutes les sœurs, toutes les sœurs Gabor étaient des grandes intellectuelles. Donc, il précisait Sanders, parce qu'on ne la lui faisait pas, qu'elle faisait taire toutes les conversations, à commencer par la sienne. Hein, c'est cette idée que les Américains maintenant appellent par le « to be silenced », être silencieux, je ne sais pas trop comment le traduire en français, qu'elle était constamment réduite au silence.
Finalement, c'est une femme de caractère, une gagneuse ou une victime, ou les deux ?
Elle est, je dirais, ni l'une ni l'autre. C'est une femme donc d'une intelligence hors du commun, ça c'est évident. La manière dont elle invente, mais qui à chaque fois, les choses sont piégées, parce qu'il y a une petite chose qu'on peut raconter qui est à la fois très drôle et à mon avis assez significative, c'est que pourquoi elle rencontre Georges Anteille, donc ce très grand pianiste et compositeur, parce que Hollywood, quand elle arrive, lui dit, bon, vous devez perdre 10-15 kilos, vous êtes trop grosse, vous êtes parfaite, sinon vous êtes la plus belle femme du monde, mais vous avez un très beau cul, on lui dit ça comme ça. Par contre, vous n'avez pas assez de seins.
Oui.
Voilà. Et il va falloir que vous ayez plus de poitrine. Et on l'envoie chez Georges Anteille, parce qu'il se trouve que Georges Anteille, il est un peu comme Eddie Lamar, c'est-à-dire c'est un artiste, mais en même temps, il a une intelligence qui s'exerce dans tellement de domaines qu'il a une sorte de hobby qui est l'endocrinologie. Donc il fabrique des pommades qui peuvent, par exemple, faire grossir les seins des stars hollywoodiennes. Donc il se rencontre dans un dîner, il lui fait toute une étude endocrinologique, il lui dit, bon écoutez, franchement, vos seins, enfin vous êtes très belles, passons à autre chose. Eux-mêmes, hein, c'est la guerre, ils ont d'autres chats à fouetter que les seins d'Eddie Lamar, et c'est comme ça qu'ils se mettent à parler de ce qui se passe en Europe. Elle, chez elle, dans sa villa hollywoodienne, elle a sur la table de sa salle à manger, fait reconstituer tout le théâtre des opérations, et très vite, ils vont en arriver à faire cette invention. Donc, à chaque fois, c'est piégé, en quelque sorte. En même temps, je pense pas que ce soit quelqu'un... elle n'a cessé d'inventer. Elle n'a jamais arrêté de faire des inventions. Elle est morte, donc sur son lit de mort, Eddie Lamar était en train, en effet, elle voulait sécuriser les feux, enfin le passage...
Oui, pour les non-voyants.
Voilà, pour les non-voyants. Donc, introduire une troisième...
Une quatrième couleur.
Une quatrième couleur, exactement. Donc, on a retrouvé à côté sur son lit, même sa main où elle avait signé, elle signait de son profil, ça ressemblait un peu comme un smiley. Ça, elle n'a jamais arrêté de le faire. Elle a inventé aussi, c'est elle qui a inventé la rampe qui sécurise les baignoires pour les personnes qui ont, enfin, soit les personnes âgées, soit les handicapés, etc. Donc, elle était comme ça, elle ne cessait d'inventer, elle est morte en même temps sans amertume, hein, je pense, au fond, avec cette vie hors du commun, mais qui socialement était probablement trop en avance sur son temps pour qu'elle ne soit vraiment adaptée, en tout cas à ce milieu hollywoodien qui n'était pas assez pour elle. Hein, qui n'était intellectuellement, qui n'était probablement pas
assez.
Vous avez dit très justement au tout début qu'elle était toujours trop.
Ouais.
Je pense que c'est vraiment la clé parce que les femmes sont souvent soit trop, soit pas assez. Ce qui veut rien dire, en vrai, d'être trop ou pas assez. Pourquoi ça veut rien dire ?
Par rapport à quoi ? Où est la référence ?
Exactement. Mmh. C'est exactement ça la question. C'est la question de la norme par rapport à laquelle un être humain, en l'occurrence du sexe féminin, va être jugé comme trop ou pas assez. Je pense que ça résume assez bien la question, je dirais pas le destin, parce que quand on est dans le destin, on est souvent dans des termes de tragédie qui nous renvoient à des figures mythologiques qui sont elles-mêmes piégées,
oui, hein, parce
qui sont
que,
très
oui.
intéressantes, mais
piégées. Parce que nous, on contrôle, pas sa vie, c'est le déterminisme, le destin qui vous emmène, et puis voilà.
Absolument. Elle, on peut voir comment, et vous avez raconté cette histoire extraordinaire de la manière dont elle a échappé à un mariage avec ce baron juif nazi converti à la dernière minute, qui avait financé la guerre en Éthiopie de Mussolini. Et elle était dans une situation, disons, de gaslight, c'est-à-dire elle était prisonnière d'un homme qui l'a maltraité. En même temps, dans ce silence, elle était censée juste être belle, avoir des belles robes et être la décoration à table. Elle écoutait, elle se souvenait de tout, et c'est ce qui lui a permis, elle espionnait en réalité. Elle n'était, voilà, je pense que ce qui est compliqué, c'était qu'est-ce qu'une actrice en fait ? Une actrice, c'est quelqu'un qui fait en grand ce que font toutes les femmes. Et c'est historiquement, particulièrement à l'époque d'Edith Lamar, une femme réduite à une personne qui doit être regardée. Edith Lamar, on voit bien, dans ce rôle d'espionne par exemple qu'elle a joué, d'espionne des dîners à table, et elle était un regard. Elle était
regardée à défaut d'être écoutée.
Voilà.
Okay.
Or, elle avait une voix, elle avait des choses à dire,
oui.
Et elle avait un regard. Et ça, dans la société particulièrement hollywoodienne de son époque, ça n'était pas une vie vivable pour cette femme-là.
Alors maintenant, visons au plus juste, si des scientifiques nous écoutent et qu'on leur dit, ben voilà, elle est à l'origine, elle a inventé le GPS, le Bluetooth et le Wi-Fi, on va nous dire, mais non, c'est pas possible, elle est à l'origine. C'est quoi la part de vérité qu'on doit lui reconnaître par rapport à ces révolutions que nous vivons aujourd'hui ?
Alors, effectivement, l'idée du saut de fréquence existait déjà. Cependant, bon, quand avec Georges Anteil, elle va utiliser les papiers troués du piano mécanique, hein, en reprenant, vous l'avez expliqué, les 88 notes, les 88 notes en utilisant les 88 notes du piano pour 88 fréquences, ils vont même ajouter d'autres notes. Pour d'autres fréquences, pour sécuriser encore plus. Ça, c'est une idée totalement originale. C'est-à-dire, au sein de cette idée du saut de fréquence, eux vont apporter quelque chose de complètement original, une idée absolument géniale. Et effectivement, ils ne sont pas pris au sérieux, parce que à cause d'un préjugé, ils débarquent, ils vont trouver cette actrice sophistiquée.
Mais oui, c'est des acteurs. D'abord, ce sont des... par rapport aux yeux de la communauté scientifique, ce sont d'abord des artistes. Donc, il y a un blocage, quoi.
Voilà.
Ils ne font pas partie de notre sérail.
Absolument. Et donc, quand le général de la marine reçoit ces deux artistes, ce dandy, cette espèce de pianiste dandy et cette star hollywoodienne, ils leur rient au nez. Ils prennent le brevet quand même. Hein, et on voit bien comment ça a resservi ensuite pendant notamment la crise de Cuba. Mais elle ne correspond pas à ce qui est censé être le cliché d'un scientifique, donc déjà un homme. Ça doit être un homme. Ça ne peut pas être une femme et a fortiori encore moins une star hollywoodienne.
Enfin, on lui doit quand même... pour une certaine part, l'utilisation du Wi-Fi, du GPS, on est d'accord.
Absolument, absolument.
Ah, voilà, je vous dis stop, c'est un peu brutal, hein, mais c'est la fin de l'émission. Merci infiniment.
Ne me dites pas de me taire.
Merci infiniment. On n'a pas fait que vous regarder, de toute façon, on est à la radio. On vous a écouté, Hélène Frappa. Je vous remercie. Au revoir.
Merci à vous.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Edith Lamar, une femme d'exception, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Raphaël Rousseau.